Bonjour à tous, ici Justine et Justine sur 93.9 Radio Campus Paris et vous écoutez Les Sens de l'Art.
Explorez les liens qui unissent art et musique. Notre interprétation est-elle sensible à cette écoute ?
Retrouvez-nous un mercredi sur 4 à 18h pour découvrir de nouveaux artistes selon la lettre du jour. Lettre G, la montagne de Gorillaz au sommet de la spiritualité. Attends, mais on s'est trompé là, non ?
Ah oui, c'est vrai, Justine, maintenant, Gorillaz, c'est ça.
Ce troisième épisode, nous vous emmenons en Inde, une terre où des personnages fictifs et animés se mêlent aux dieux pour comprendre leurs pensées. Bienvenue dans l'univers du groupe Gorillaz, dont le 9e album The Mountain, paru ce 27 février dernier, prend place en Inde.
Mais pour cela, il faut un peu remonter le temps. 1998, Damon Albarn chante dans le groupe de Britpop Blur et ne supporte plus la célébrité. Avec le dessinateur de la BD Tank Girl, Jamie Hewlett, ils vivent en colocation et organisent des soirées immenses mêlant toute la fame de Londres dans leur appartement surnommé la Danger Zone. Les lendemains de soirée, ils les passent sur leur canapé à regarder des mauvais clips en boucle. Dégoûtés, ils décident de fonder leur propre groupe, un projet annexe à Blur au départ, qui permettrait à Damon de se cacher derrière des personnages fictifs dessinés par Jamie. Gorillaz est né, ou plutôt Gorilla, car au début, le groupe n'est soutenu que par le seul gorille jouant du tam-tam. Le nom fait alors allusion à un premier groupe fictif américain, The Monkees, inventé pour une série télévisée, mais dont la musique I'm a Believer connaît un tel succès qu'il se produise en vrai. En pleine querelle Britpop entre Oasis et Blur, Liam Gallagher déclare d'ailleurs « Nous, on est à la fois les Beatles et les Stones, et les Blur, c'est les putains de Monkees, des imposteurs et des acteurs ». Mais quitte à être des imposteurs, autant le faire en grand. Progressivement, ils ajoutent quatre personnages qui évinceront le gorille d'origine et prendront le nom de Gorillaz. Un terme qui renvoie par ailleurs à guérilla, la rébellion contre le système en ordre, une notion très présente chez les personnages. Le groupe est alors formé de Murdoch, le bassiste sataniste né le 6/6/1966, de Toody, passionné d'orgue, de piano et autres instruments à touche très librement inspirés de Damon, et de Russell, un batteur américain arrivé en Angleterre et habité par un démon surnommé Del, formé par la mort de ses amis rappeurs. Un jour de studio, ils reçoivent un mystérieux colis FedEx contenant une petite fille, ancienne soldate japonaise. Elle ne parle pas un mot d'anglais, si ce n'est Noodle, qui deviendra son surnom, et joue de la guitare. Gorillaz, c'est donc 4 personnages fictifs, 9 albums dont chacun est un voyage et une critique, soutenus par des visuels toujours plus ambitieux et des sonorités mêlant hip-hop, rock, indé, electronica, dub, reggae et ce, depuis 25 ans. Un très bon programme qui fera dire à Damon « Nous sommes le meilleur groupe et nous n'existons même pas ». Mais alors, quelle suite d'événements ont mené le groupe à se trouver sur les terres sacrées de l'Inde ? Damon souligne dans une interview que chaque album de Gorillaz reflète ce que nous traversons. En 2024, la belle-mère de Jamie subit un grave accident au Rajasthan, les obligeant à se rendre sur place. Jamie reste alors plusieurs mois en Inde et découvre sa culture et pensée. Une expérience aux allures traumatisantes qui l'inspire pourtant à revenir, cette fois accompagné de Damon. Les deux parcourent l'Inde, s'amusent, mais une mauvaise nouvelle surgit. Le père de Damon vient de décéder. Le soutien de Jamie, qui a lui aussi perdu son père, est alors fondamental. Face au deuil, les deux artistes décident de rester en Inde. Ils trouvent refuge dans les campagnes spirituelles de Mumbai, dans les montagnes de Rishikesh. Nous ne sommes pas devenus spirituels du tout. Nous avons juste eu une expérience qui nous a aidés dans ce que nous traversions. Mais nous n'étions pas des touristes cherchant un ashram ou je ne sais quoi.
Il faut savoir qu'en Inde, tout est lié. La musique, la religion, la pensée philosophique et même l'art ne font qu'un. La culture indienne est probablement la seule à accorder au phénomène vibratoire une place aussi importante dans sa cosmogonie. La cosmogonie, c'est l'ensemble des récits expliquant la création de l'univers. Cette dernière, dans la mythologie indienne, est le produit d'une seule et même vibration originelle issue de l'énergie créatrice divine. Ainsi, cette puissance d'évocation se retrouve dans la langue sanscrite, dont les hymnes védiques possèdent une indéniable musicalité. Nous allons à présent débuter ce périple. Prenez votre sac à dos, votre gourde, et nous espérons que vous êtes équipés pour cette ascension. Accrochez-vous et laissez-vous porter par cette envie d'ailleurs, guidée par les douces mélodies de sitar. Mais attention, des rencontres pourraient vous plonger dans un nouveau monde, un monde communiquant entre les vivants et les morts, entre les divinités et leurs pouvoirs spirituels. Laissez-nous débuter ce périple à vos côtés en nous penchant sur la cosmogonie indienne. Ce pays, si vaste soit-il, est fondé sur une histoire de l'art très riche débutée au milieu du 3e millénaire avant notre ère. Mais nous allons nous pencher sur une période plus contemporaine de cette civilisation où l'art et la spiritualité sont au service d'une iconographie des plus intrigantes. Pour synthétiser, cette histoire se fonde sur les textes de la Veda, qui est à l'origine de la création du répertoire bouddhiste, jaïn et hindouiste, les trois principaux courants religieux. Nous vous proposons de nous intéresser à l'hindouisme, régi par un panthéon de divinités dont nous allons présenter Shiva, l'une des principales. Shiva est une divinité aux facettes plutôt complexes. Il prend plaisir à s'affranchir des normes de comportement humain et les histoires abondent sur sa conduite scandaleuse et son ambivalence morale. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit souvent déconcertant et imprévisible. Il est également connu sous différents noms, comme Nataraja, dieu de la danse par exemple. Shiva est aussi le génie de la fertilité, comme le suggère clairement la forme la plus courante sous laquelle il est vénéré, le pilier phallique dressé, dit Linga. La mythologie de Shiva est pleine d'illusions, de magie et de paradoxes. Il est à la fois ascète errant et chaste, qui renonce au confort de la vie quotidienne et le père de famille idéale. Il n'est pas rare de le voir dans les peintures, soit comme un mendiant déguenillé et dépossédé, soit assis dans sa maison de montagne avec sa famille autour de lui. Regardez, il vous indique le chemin à prendre face à ce carrefour auquel vous êtes confronté. Couronné de serpents, ces derniers semblent vous susurrer leur confiance. Vous poursuivez votre route, plutôt interloqué de cette interaction des plus inhabituelles et qui peut faire notamment écho à un certain épisode du Livre de la Jungle. Le chemin sur lequel vous êtes, tout à coup, se met à trembler. Vous tombez alors nez à nez avec une sculpture, le Lingot Bhava. Il s'agit d'une forme cumulant la représentation de Shiva en Linga et en forme humaine. Penchons-nous un instant pour comprendre les fondements de cette iconographie. Shiva se tient resplendissant dans une ouverture ovale à l'intérieur du Linga, tandis qu'au-dessus et en dessous de lui se prosternent deux dieux, Vishnu, représenté sous la forme d'un sanglier, et Brahma, en oiseau. Cet épisode repose sur la dispute entre Brahma et Vishnu pour savoir lequel des deux était le plus grand des dieux. Pendant leur dispute, un linga de feu surgit de terre que l'un et l'autre ne purent délimiter. Vishnu, en sanglier, tente de creuser la terre en vain, tandis que Brahma s'envole vers les plus hautes sphères de l'atmosphère. Shiva apparaît alors sous forme humaine, démontrant sa supériorité sur tous les autres dieux. Décidément, ce voyage ne vous laisse pas en repos. Mais quelle n'est pas votre surprise de vous sentir emporté dans une danse des plus mouvementées, comme si la divinité s'emparait de votre propre corps. Shiva sous forme humaine, c'est aussi le seigneur de la danse, s'interprétant à la fois comme une figure de création et de destruction. Pris dans cet élan terrible, il réconcilie toutes les oppositions, l'amour et la haine, le jour et la nuit, le bien et le mal. Ses pieds écrasent un démon de l'ignorance que le fidèle ne doit craindre. Cette danse terrible se termine, voilà débarrassé de cette possession. Prenez un temps pour souffler. Et comprenez dans quel contexte ces iconographies permettent un lien inévitable avec nos artistes du jour. Si ces iconographies se retrouvent dans tous les médiums artistiques comme la peinture ou la sculpture, ce sont des images vénérées par les hindouistes. Dénuées de sens religieux, mais non sans référence, elles sont notamment employées dans le court-métrage The Mountain, où Gorillaz introduit ces sonorités nouvelles au répertoire hindouiste qu'ils ont pu traverser et découvrir lors de leur périple. Le mysticisme se mêle alors à la création sonore. L'essence de l'art. Un mercredi sur 4 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
That is. is the hardest thing. And when the curtains rise and the party begins, do you love? Do you break down inside, wondering how? How you got to the afterlife?
Gorillaz effectue son périple au cœur d'un des sites les plus fréquentés, celui de Varanasi. C'est une ville du nord de l'Inde, dans la région de l'Uttar Pradesh. Considérée comme la capitale spirituelle de l'Inde, elle attire les pèlerins hindous qui viennent se baigner dans les eaux sacrées du Gange et s'adonner à des rituels funéraires. Les rues sinueuses de la ville sont jalonnées de quelques 2000 temples, dont celui de Kashi Vishvanath, le temple d'or dédié au dieu hindou Shiva. Accordons-nous sur le temple de Kashi Vishvana. Selon la légende, c'est à cet endroit que Shiva s'est manifesté sous cette forme d'une colonne infinie de lumière, représentée comme le Lingod Bhava devant Brahma et Vishnu lorsqu'ils eurent une dispute sur leur suprématie. Ce temple est connu par les nombreuses successions d'édifications et de destructions ayant traversé les époques depuis le XIIe siècle. Communément appelé le Temple d'Or, c'est ici un véritable chef-d'œuvre architectural avec ses flèches dorées scintillantes et sculptures racontant les exploits divins du dieu Shiva. Chaque recoin du temple respire la divinité et l'intemporalité, ce qui en fait non seulement un lieu de culte, mais aussi une œuvre d'art vivante en s'inspirant du lien profond qui unit l'art et la spiritualité. En parcourant les couloirs sacrés du temple Kashi Vishvana, les sons des cloches et des mantras emplissent l'air, créant une atmosphère de recueillement presque palpable. Les rituels qui s'y déroulent sont conçus pour aider le fidèle à entrer en profonde communion avec le divin. À Varanasi, la mort n'est pas redoutée, mais vénérée comme une transition sacrée. La croyance selon laquelle le Gange qui traverse la ville purifie l'âme lors de la crémation renforce l'importance de la ville en tant que refuge spirituel. Ce mélange unique de vie et de mort fait de Varanasi une destination extraordinaire pour ceux qui recherchent un lien plus profond avec le divin et une compréhension profonde du voyage de l'âme. Damon en fait lui-même l'expérience. Il vole à Varanasi pour disperser les cendres de son père. La crémation est alors le rituel le plus répandu dans les sociétés brahmaniques, jaïnes et bouddhistes. Il s'agit du dernier des sacrements dits samskara, marquant l'achèvement de la vie corporelle. Le feu réduit le corps matériel en cendres, éliminant toute impureté et favorisant la libération du corps subtil, prêt pour une nouvelle réincarnation. Mourir à Varanasi assure la libération immédiate du cycle des renaissances. L'album de Mountain reprend cette vision de la mort. Il fallait, selon leurs mots, créer un album sur la mort qui aide les gens à moins la craindre. J'ai vu la musique accomplir des choses extraordinaires, on y verse sa tristesse et on en savoure la lumière. Le mantra de l'album, dont le nom est écrit en Devanagari sur la pochette, devient celui d'ouvrir notre cœur aux gens que l'on aime avant qu'ils ne soient partis. Les personnages sont à cheval sur la montagne, entre le monde des vivants et des morts. La forme triangulaire du mont, associée au chiffre 3, est omniprésente sur le territoire indien et semble percer le ciel pour accéder à la Trimurti indienne originale. Gorillaz cerne complètement la culture artistique indienne pour en assumer son propos créatif et explorer davantage cette réflexion mortem en intégrant des enregistrements d'artistes défunts. Parmi les 15 invités de l'album, 6 contribuent à titre posthume, tandis que d'autres collaborations incluent Anushka Shankar, Johnny Marr de The Smiths, Paul Simonon de The Clash, Idols, Sparks, Omar Suleiman et Mos Def. Ainsi, cette ascension se poursuit sur la route qu'ont empruntée Gorillaz vers cette nouvelle perception du discours artistique mêlé à la culture hindouiste.
Vous venez d'écouter le morceau Raga Hamsadwani du plus grand joueur de sitar au monde, Ravi Shankar. Mais alors, qui est Ravi Shankar et quel lien peut-il avoir avec Gorillaz ? Robendra Shankar, dit Ravi Shankar, naît le 7 avril 1920 dans le haut lieu de pèlerinage hindou, Varanasi. Son père faisait partie de la plus haute sphère de caste hindoue, celle des brahmanes, mais n'exerçait aucune fonction religieuse. Le petit Ravi grandit alors dans cet univers religieux, mais avant de goûter à sa musique, il se destine à la danse et au théâtre. Son frère aîné, Uday Shankar, danseur et directeur du film Kalpana, l'engage sur le tournage comme danseur. C'est ici que Ravi va rencontrer son futur mentor musical, l'illustre Oustad Alauddin Khan, maître de musique indienne et originaire du Bengale, et fondateur de la Gharana de Meyhar, école de Meyhar. Si le projet est finalement abandonné, Ravi, suite au décès de son père, décide de rejoindre Alauddin Khan pour suivre son Gurukula, un apprentissage religieux strict, centré autour de la pratique des instruments de musique classique indienne. Il y perfectionne sa découverte du sitar parmi d'autres instruments à cordes et démontre rapidement un grand talent remarqué par les plus grands joueurs de musique classique indienne. Et c'est notamment grâce à Ravi Shankar que nous pouvons présentement écouter des musiques portant des notes de sitar. Vous lui devez la plupart de vos musiques rock préférées. En 1956, Ravi, fort de son enseignement, s'investit d'une mission, celle d'introduire la musique raga et hindoustani en Occident. Définissons alors le raga. Comme nous l'avons évoqué depuis son commencement, la culture spirituelle indienne est intrinsèquement liée à ses formes d'expression, telles la musique. L'origine des conceptions musicales indiennes se rapporte à une pensée philosophique des textes canoniques de l'Inde ancienne. Le terme de raga dérive de la racine sanscrite ranj, qui signifie teinte ou couleur. Le raga est ce qui colore l'esprit, et chaque raga va avoir un caractère, un sentiment qui lui est propre. Il existe un raga pour chaque moment de la journée et émotion. Ce terme est relaté autour des 5e et 10e siècles avant notre ère, parmi les plus anciens traités techniques. Dans la religion hindoue et bouddhiste, il signifie passion, attachement et avidité. Le raga pourrait alors se définir comme une échelle de notes à appliquer selon des règles précises pour construire des compositions et des improvisations. Il s'agit d'un système modal, une entité dynamique et évolutive avec le temps, qui comporte un certain nombre de traits spécifiques, des échelles ascendantes et descendantes, des notes consonantes et des mouvements mélodiques. L'enseignement d'un raga est oral et déduit d'une longue relation entre le maître gourou et le disciple sissiya. Il s'agit toutefois de distinguer la musique d'Inde du Nord et de celle du Sud, différentes par leur compréhension propre des svaras, les notes, et des ragas, les modes. Ainsi, en Inde du Nord, c'est plutôt la musique hindoustani qui est pratiquée. Ce terme renvoie au contexte de la musique spécifique au Népal, au Pakistan et à l'Afghanistan, en plus de l'Inde du Nord. L'Inde du Sud, quant à elle, est caractérisée par la musique carnatique. Cette division des deux genres correspond à l'influence de la culture perse au Nord. En effet, dès le règne du sultan de Delhi, les musiciens indiens et perses destinent la musique au cours royal du nord de l'Inde, développant une musique mixte qui n'est ni cérémonielle ni dévotionnelle, mais destinée à charmer les sultans. La musique hindoustani se concentre alors sur des histoires humaines complexes, leurs compositions pouvant s'étendre sur des heures entières, laissant libre cours à l'improvisation. Si la musique hindoustanie ne se rapporte pas à la musique folklorique telle la musique bollywoodienne, elle use du même mode de notes qu'est le raga.
Revenons à présent à l'année 1956 et l'arrivée de Ravi Shankar aux États-Unis. Les années 1960 marquent une ouverture particulière à l'Orient. La guerre du Vietnam, débutée depuis 1954, a déclenché des mouvements pacifiques sur l'ensemble de la côte ouest et l'arrivée du gourou Maharishi Mahesh Yogi y contribue fortement. Ce dernier popularise dans la contre-culture américaine la méditation transcendantale en induisant un quatrième état de conscience et sera le gourou de plusieurs personnalités de la musique, dont Clint Eastwood, mais aussi Patti Boyd, épouse de George Harrison, qui entraîne tous les Beatles dans son ashram à Rishikesh. Ravi débarque alors dans cet environnement particulier et pose les bases de ce qui deviendra le raga rock, une branche du rock qui tire de la musique classique indienne le système de construction modale qu'est le raga, son instrumentalisation et timbre par l'inclusion du sitar notamment. Le sitar est un instrument nouveau pour les artistes occidentaux qui plaît particulièrement par sa capacité à produire des sons isolés, continus et enivrants grâce à des cordes sympathiques, aussi dites des cordes indépendantes. Mais c'est principalement sur la terre britannique, ancien colonisateur des Indes, que se développe le raga rock. Dès 1965, le guitariste de The Yardbirds, Jeff Beck, imite dans la musique Heart Full of Soul des riffs de sitar avec sa guitare électrique. La même année, les Kings s'inspirent des chants d'un groupe de pêcheurs entendus sur les berges de la mer de Bombay pour leur musique « See My Friends ». Le terme est alors défini par le publiciste du groupe de rock américain The Birds pour décrire leur single « Why ». Mais il faudra attendre 1966 avec les Rolling Stones dans Paint in Black pour obtenir un réel son de sitar joué par Brian Jones. Il avait été initié à l'instrument par George Harrison, lui-même disciple de Ravi Shankar. En 1970, Ananda Shankar, fils de Uday Shankar, frère de Ravi Shankar, reprend d'ailleurs Jumpin' Jack Flash au sitar. Mais c'est avec les Beatles que le raga rock et l'enseignement de Ravi Shankar s'expriment véritablement. Lors d'une tournée aux côtés des Birds, le guitariste du groupe initie George Harrison à la musique de Ravi Shankar. George est passionné, il achète un sitar et intègre l'Asian Music Circle avant d'enseigner avec le maître même, Ravi Shankar. Une amitié qui se cristallise par l'enregistrement de l'album Revolver, paru en 1966. Dans la musique Love You Too ou encore Tomorrow Never Knows, si les véritables instruments hindoustanis ne sont convoqués qu'à la troisième prise, le groupe reste le premier à réellement opérer une fusion entre la musique classique indienne et ses modes de composition et la musique expérimentale du rock psychédélique. La même année, l'ethnomusicologue Ariar Rao s'allie avec The Wrecking Crew pour la confection d'un album particulier, Raga Rock. Le terme est alors né et il s'ancre pour toujours dans l'histoire de la musique.
Mais alors, quel lien subsiste avec la musique de Gorillaz dans leur nouvel album The Mountain ? Et est-ce que ce dernier s'ancre dans cette pratique d'emprunt à la musique classique hindoustanie et ses modes raga ? Damon et Jamie convoquent des artistes multiculturels sur leur album qui agit comme un énième terrain d'expérimentation musicale. En cela, la démarche est semblable au mode d'exploration que permettent les ragas. Damon grandit en écoutant de la musique indienne et hindoustanie introduite par son père. Il aime ajouter qu'il a découvert Ravi Shankar avant les Beatles. Il grandit dans une éducation aux sources éclectiques, où les histoires des religions cycliques bouddhistes et hindouistes ont nourri son imaginaire. Il n'est donc pas anodin de voir qu'une fois le chemin de l'album dessiné, Damon, fidèle à son habitude, se cloître en studio pour convoquer les meilleurs musiciens du pays. C'est ainsi que Anushka Shankar, fille de Ravi Shankar, intervient sur plusieurs pistes de l'album, telles « The Plastic Guru » and « Orange County ». Elle contribue à maintenir l'héritage de la musique hindoustanie et raga dans ce nouvel album de pop contemporaine.
Les deux auteurs ont mis un point d'honneur à enregistrer sur place, dans les salons des uns et les studios des autres. La musique de Mountain, qui ouvre l'album, découle d'un enregistrement sauvage d'un violoniste sur les berges du fleuve. Les longs rythmes sont semblables aux incantations folkloriques indiennes. Gorillaz indique ici l'orientation et orientalisation du groupe. Le titre « God of Lying », soutenu par le chanteur du groupe Idols, Joey Talbot, relate l'incantation d'un dieu du mensonge qui l'entraîne vers le pire. La musique emprunte des sonorités indiennes, plaçant le cadre de la scène, une fête de l'ivresse et du pire. Ici est célébrée l'addiction au vice dans un univers presque kitsch emprunté aux musiques folkloriques bollywoodiennes, aussi présente dans la musique The Manifesto, mêlée à un humour noir et une pointe de criticisme propre au groupe. La voix monotone de Joey Talbot confère un aspect semi-éveillé de dégoût et contraste avec l'univers presque joyeux de cette cérémonie aux aspects de consolation.
Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe.
Oh, don't you say that you think that I'm in glory. Oh, don't you say that you think I got no glory.
Vous voilà désormais arrivé au sommet de cette ascension. Prenez un temps pour souffler cet air pur de la montagne, rassasiez-vous en regardant ce paysage qui s'étend devant vous. Le monde spirituel est désormais à portée de main. Saluez Shiva et accordez une pensée aux êtres qui vous ont quittés. Car si la montagne de Gorillaz nous a appris quelque chose, c'est que chaque être peut être honoré sans disparaître.
Nous vous invitons à présent à vous munir d'une œuvre animée ou sculpturale, selon votre inspiration, pour s'immerger dans ce monde fictif et spirituel, alliant musique, art et philosophie. Voici Delirium, une musique de fête et presque d'ode à cet au-delà.
Open the door. Can you hear the drum? There's panic on the mountain, 'cause the new gods come. He doesn't recognize himself for what he's done. But if you don't embrace him, then it's time to run. If you don't believe in him, open the door and let me in. I've been out in the chat rooms waiting for the end to begin.
Retrouvez-nous pour un quatrième épisode, toujours sous l'inspiration de la musique et pour une nouvelle perception de l'art. L'essence de l'art.
Une nouvelle perception des œuvres par la musique.